Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité en ce vendredi matin est Elisabeth Louvel. Elle est candidate aux européennes sur la liste Reconquête, conduite par Marion Maréchal. Elle fait partie, je le précise, des trois candidats bretons de Reconquête aux européennes. Elle est 21e sur la liste de Marion Maréchal. Elle est venue spécialement ce matin de Brest pour être avec nous. Je l'en remercie. Bonjour.
C'est moi qui vous remercie. Bonjour.
Alors, on va parler de politique et d'Europe ce matin. On parlera aussi un petit peu de politique française et internationale. Mais j'avais envie de vous entendre sur cette polémique qui a beaucoup fait couler d'encre et agité la sphère médiatique depuis mardi, où Marion Maréchal était invitée de France Inter. Dans la matinale de nos confrères de France Inter, elle était interviewée par Sonia De Villers et il y a eu ce que les jeunes pourraient qualifier de clash entre Marion Maréchal et Sonia De Villers, puisque Marion Maréchal s'exprimait autour de la récompense reçue par une actrice transgenre, primée donc au Festival de Cannes, Carla Sofia Gascón, où Marion Maréchal avait estimé que c'était finalement un homme qui recevait cette récompense, et ça lui a valu une plainte d'association LGBT et de l'intéressé également. Et il y a eu cette question de ce Sonia De Villers, quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Et on a compris que là, Marion Maréchal s'est énervée. Voilà.
Est-ce
que
oui, pour à vous, juste titre. Oui. Déjà, je pense qu'elle a été estomaquée par la question qui est complètement, qui est très choquante. C'est un raccourci qui est non seulement stupide, mais évidemment extrêmement brutal d'associer la vision de la famille à celle du maréchal Pétain. C'est assez choquant de la part de cette journaliste. Et ce à quoi d'ailleurs Marion lui a très justement répondu qu'elle savait pourquoi elle allait privatiser l'aide.
Voilà, le service audiovisuel public.
Le service
public,
audiovisuel
voilà.
Public. Je trouve que c'est une très bonne réponse qui a peut-être un peu calmé aussi les choses, parce que partir sur ce terrain-là, c'est toujours assez choquant. Et je pense que cette journaliste a voulu en effet agresser Marion, et que celle-ci a gardé son calme, parce qu'en fait elle ne disait que la vérité, une vérité biologique, qui est que donc ce prix d'interprétation féminine a été décerné à un homme, alors peut-être une femme transgenre, mais à l'origine c'est un homme, et le dire ne devrait pas être sujet à plainte ou à réclamation. C'est juste la vérité biologique.
Il n'y avait pas de propos transphobe, hein, selon vous.
Non, ce n'est pas la transphobie. Il n'y a aucune haine. Il y a déjà la transphobie, bon, si tant est que ça existe, parce que c'est pas non plus prouvé. Mais il n'y a aucune haine à dire cela. Un homme trans est une femme, et une femme trans est un homme. À l'origine.
Alors, il y a tout un débat aujourd'hui sur la famille en France et plus largement en Europe, avec des évolutions sociétales autour de la famille. Alors là, d'ailleurs, on a entendu plusieurs voix qui disaient, voilà, finalement, la journaliste a eu raison parce que c'est une vision catholique refermée de la famille. Est-ce que ça aussi, ça vous choque quand vous entendez ça?
Ce qui me choque, en fait, c'est cet état d'esprit qui est devenu complètement... c'est eux les plus intolérants, finalement. Nous, nous exprimons juste, c'est du bon sens. Dire qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour naître d'un homme et d'une femme, ça ne changera pas, ça. Ça n'a pas changé, à ce qui paraît. Je pense qu'il faudra toujours un homme et une femme pour avoir un enfant. Après, c'est vrai que le modèle familial, je dirais le socle, c'est un papa, une maman, des enfants, une famille unie. Et évidemment que nous n'allons pas stigmatiser des familles désunies, c'est des malheurs aussi, c'est d'autres familles. Moi, je forme avec mon conjoint une famille recomposée, donc je serais bien la dernière à critiquer ça. Quand il y a beaucoup d'amour et il y a de la fraternité, c'est une famille aussi, mais ça n'empêche qu'il faudra toujours un papa et une maman pour avoir un enfant.
On peut avoir des familles homosexuelles, en tout cas deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, qui peuvent élever des enfants, selon vous, ça pose un problème ou pas?
Je pense que ce désir d'enfant qui peut être propre aux personnes homosexuelles, je ne le nie pas. Je ne nie pas qu'il y a une souffrance aussi à se dire « je suis homosexuelle, je ne pourrai pas avoir d'enfant ». Mais il faut aussi penser à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est quand même la base dans notre droit aussi et qu'on oublie un peu trop souvent. Et je peux vous dire, moi, qu'un père est essentiel dans la famille. L'autorité d'un homme n'est pas la même que celle d'une femme. Moi, je suis souvent seule avec mes enfants et je peux vous dire que l'autorité, elle s'émousse et que parfois, c'est bien d'avoir une autorité masculine et qui donne aussi d'autres repères. Quand on a des fils, notamment, c'est important. Alors, je peux avoir une vision un peu réac et conservatrice, en effet, de la famille, mais je considère que une femme et un homme sont complémentaires.
Alors, il y a cette crainte, si demain, alors, on va se projeter un petit peu plus loin, on va revenir aux européennes, mais Marion Maréchal était présidente de la République, par exemple. Il y a cette crainte de beaucoup de concitoyens de se dire, voilà, on va revenir à un conservatisme, on n'aura plus le droit à l'IVG, on va montrer du doigt les homosexuels. Rassurez-nous là-dessus, c'est pas du tout l'idée.
Non, c'est pas du tout l'idée, parce que c'est des fausses idées, c'est des idées reçues, c'est une réputation qu'on nous donne. Dès qu'on nous met l'étiquette conservateur, on est d'affreux réac et qui allons tout revoir, tout annuler. Nous, ce que nous voulons juste, c'est être c'est conserver ce qui est bien, en fait. C'est tout simplement le bon sens. Je trouve qu'on a perdu ce bon sens à travers les années et que ce que nous voulons, nous, c'est retrouver un peu cette... un peu de nature là-dedans. En fait, en ce moment, je trouve que la gauche souhaite déconstruire à tous les niveaux. Et nous souhaitons conserver voilà, ce qui a toujours existé et qui était bon. Quand on dit qu'on va faire la guerre aux homosexuels, c'est complètement fou. C'est une idée complètement délirante. Nous avons d'ailleurs des personnes homosexuelles dans notre parti et qui en ont assez, justement, aussi des délires de cette gauche wokiste ou de cette propagande LGBT à outrance. Nous voulons aussi protéger nos enfants de cette propagande qui sévit dès le plus jeune âge dans les petites écoles, en petites sections, à travers les livres, à travers les enseignements. L'éducation sexuelle, même de nos enfants, c'est pas normal de leur apprendre des choses qui, à 6-7 ans, qui ne devraient connaître que plus tard. Donc c'est aussi protéger la jeune génération que de les protéger de tous ces délires-là. Il y a toujours eu des homosexuels, ils n'en font pas étalage, c'est dans leur intimité, c'est l'intimité de chacun, loin de moi de juger quoi que ce soit. Mais oui, je protège mes enfants de ceux qui voudraient dire que tout peut être reconsidéré, qu'on peut changer de sexe, qu'on n'est pas né forcément garçon, qu'on peut redevenir fille. Je pense que c'est vraiment enlever des repères à un âge où justement on a besoin de repères et on est un peu perdu parfois. Et c'est pas parce qu'on n'est pas bien ou harcelé que tout de suite il faut considérer que c'est peut-être parce qu'on n'est pas bien dans notre condition féminine ou masculine. C'est une dérive et un risque que je trouve énorme.
Alors on va parler de l'Europe, on va revenir à l'Europe avec évidemment un sujet que vous abordez souvent chez Reconquête, c'est le sujet de l'immigration. Aujourd'hui, on voit que c'est un sujet qui préoccupe les Français, deux sujets d'ailleurs préoccupent les Français, c'est le pouvoir d'achat et l'immigration. Alors on va commencer par l'immigration. Aujourd'hui, on a beaucoup de migrants sur le territoire français, plusieurs thèses s'opposent, on entend la thèse de celles et ceux qui veulent qu'on régularise les migrants, qu'ils puissent venir en Europe. D'autres thèses, et c'est peut-être plus proche de Reconquête, qui disent, voilà, stop à l'immigration, il faut accueillir ceux qui sont là, et puis il faut peut-être travailler avec les pays d'où ils viennent, ces migrants, pour qu'ils puissent rester sur place, qu'ils puissent vivre décemment sur place, peut-être aussi avoir tout un travail diplomatique si on a affaire à des pays en guerre. Quelle est votre position sur l'immigration aujourd'hui? Parce qu'on a du mal à y voir clair aujourd'hui, un petit peu sur ce problème de l'immigration.
Alors sur l'immigration, ça fait d'ailleurs partie des quatre piliers fondamentaux de notre programme européen. Sur l'immigration, nous voulons libérer justement l'Europe et la France de cette submersion migratoire qui entraîne bien souvent aussi un sujet dont on ne parle pas du tout dans cette campagne, l'islamisation de notre continent. S'agissant de l'immigration, nous proposons l'instauration d'une triple frontière. Nous sommes les seuls à proposer ça et je vais vous expliquer de façon assez rapide et de façon très concrète que c'est tout à fait possible parce que dès qu'on en parle, on a souvent les chantres de l'immigration qui nous disent que c'est impossible, qu'on ne pourra pas, que c'est... Et en fait, je pense que ces gens-là manquent de volonté et nous avons la volonté, la détermination et surtout la capacité de le faire si nous sommes élus au Parlement européen. Donc la triple frontière, c'est d'abord la frontière nationale, qui paraît être la base, et ce que font tous les pays d'ailleurs. Ils ont une frontière, ils instaurent un contrôle aux frontières. Et si vous êtes extra-européen, vous ne pouvez pas rentrer dans un État membre. Donc c'est très simple, il suffit de présenter un passeport européen. Pour cela d'ailleurs, nous comptons quitter la CEDH, qui est une convention vieille de 70 ans et nous considérons qu'il n'est pas du tout adapté à la situation migratoire actuelle. Pour vous donner un exemple complètement fou, la CEDH interdit l'expulsion de terroristes.
Alors la CEDH, voilà. Pour les auditeurs...
Convention européenne des droits de l'homme.
Voilà.
Voilà, et qui notamment interdit le refoulement à la frontière des migrants. Voilà, ce que nous voulons remettre à l'ordre du jour. C'est une des différences d'ailleurs avec le Rassemblement National, si je peux faire une parenthèse, qui ne compte plus sortir de la CEDH. Mmh. Ensuite, il y a la deuxième frontière qui est la frontière de l'Union européenne. Alors là, pour le coup, c'est une coopération qui se fera avec toutes les marines des États frontaliers, l'Espagne, l'Italie, la Grèce peut-être, et qui serait donc d'envisager un blocus naval militaire européen pour empêcher les bateaux d'accoster dans les États membres et les refouler dans les pays d'origine.
Ça veut dire aussi qu'il faut que les 27 pays puissent parler d'une seule voix.
Oui, alors oui et non, parce que ça peut ne concerner que les pays dont les frontières sont limitrophes, sont concernées par l'immigration, les bateaux qui arrivent en fait.
Dans les
Donc
frontières
on peut
maritimes.
Très bien prendre cette décision sans être obligé d'avoir l'unanimité. Et puis la troisième frontière, c'est une frontière extra-européenne. Cette frontière, elle serait mise dans les pays de départ et où on pourrait éventuellement subordonner l'aide au développement à l'aide à la remigration, à la reprise des clandestins dans ces pays-là, mettre des centres de migrants comme la Grande-Bretagne le fait avec le Rwanda. Donc tout ça est envisageable et tout à fait possible si on s'en donne les moyens, si on a la volonté. Et puis surtout, nous, au niveau européen, nous aurons la capacité de le faire puisque nous avons 17 alliés. Si nous rejoignons le groupe des conservateurs européens, nous sommes avec 17 alliés, dont 4 qui sont au pouvoir et qui ont cette volonté aussi de mettre fin à l'immigration submersion que l'Europe connaît aujourd'hui, qui est une vraie menace.
Alors avec un souci pour faire retourner au pays, par exemple, des migrants qui ont commis des actes punis par la loi ici sur notre sol, très souvent le pays d'origine ne veut pas les reprendre, ne délivre pas de passeport pour les reprendre.
Mais justement, c'est là qu'intervient la subordination de l'aide au développement et toutes les aides que nous envoyons à ces pays-là. Eh bien, si vous ne reprenez pas vos clandestins, vous n'aurez plus d'aide au développement. Donc c'est vraiment un chantage, entre guillemets, qui se ferait de façon diplomatique et qui se ferait très bien, je suis sûre. Parce que dès qu'il est question d'argent, je vous assure que les choses sont vues autrement.
Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de mineurs non accompagnés sur le territoire qui ne peuvent pas être envoyés dans leur pays, parfois qui n'ont pas du tout de papier. Là aussi, vous envisagez des solutions pour les faire rentrer chez eux ou au contraire pour les accueillir ici, les former, les intégrer?
Alors les mineurs isolés, oui, le problème c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui oblige le pays à les accueillir. Je pense qu'à la base, il faut déjà revoir la minorité de ces enfants-là, car on réalise que 60% parfois ne sont pas mineurs, ça monte jusqu'à 70% dans le Finistère. C'est même M. De Calan qui le dit.
Maël De Calan, qui est le président.
Maël De Calan, le président du département du Finistère, oui, qui est obligé d'accueillir les mineurs isolés, comme il dit, et qui en effet est dans l'obligation de leur offrir une structure. Donc on les loge, on les nourrit, ils ont toutes les formations nécessaires, toutes les subventions. Et là, du coup, nous y voyons aussi une forme d'acceptation de régulariser des personnes qui, au final, sont clandestins, mineurs ou pas, et surtout la majeure partie majeure, et qui sont un vrai fléau aussi pour les communes qui les accueillent, un fléau sécuritaire et... les policiers vous le diront, la plupart des délinquants aussi sont mineurs isolés, qui rentrent dans des trafics de drogue également. Donc tout ça, évidemment, est une grande menace pour la sécurité.
Leur fragilité fait que les mafias leur mettent la main dessus, finalement.
Oui, absolument, oui. Il y en a qui rentrent dans un vrai réseau de narcotrafic et qui sont exploités aussi. Mais tout ça, donc, qui dépend finalement de droit international. Nous préconisons de réformer la Constitution pour que notre droit national prime sur tous ces traités internationaux quand il s'agit de la sécurité de notre territoire. Et là, nous estimons que cet appel d'air, et c'est une autre filière d'immigration aussi, les mineurs isolés.
Alors, il y a un grand débat aujourd'hui, ou en tout cas de grands affrontements autour de la délinquance et de la sécurité. Est-ce que finalement l'insécurité en France ou la délinquance est liée à l'immigration ?
Alors, ce serait malhonnête et être aveugle que de le nier. Moi, j'ai toujours dit, et on le voit d'ailleurs, et la plupart des Français s'en rendent compte également, que l'insécurité est liée à l'immigration. On le voit dans les chiffres, et les chiffres ne mentent pas, les hommes peuvent mentir, mais pas les chiffres. On voit que c'est près de 50% des agressions dans les transports en commun à Paris. On le voit dans les agressions sexuelles, que les étrangers sont surreprésentés. Et puis on le voit, il ne faut pas le nier, et ce n'est pas interdit de le dire, qu'il y a 25% d'étrangers dans les prisons, alors qu'ils représentent à peine 8% de la population. Donc c'est une surreprésentation étrangère dans les crimes et les délits. Le nier aujourd'hui, c'est de la pure idéologie.
Là aussi, il faut avoir une action vis-à-vis de la pénitentiaire qui a été éprouvée ces derniers temps,
oui,
avec cette attaque et ces deux officiers d'accompagnement de la pénitentiaire qui ont trouvé la mort sur un péage dans l'Eure. Est-ce que là aussi, il faut avoir une autre approche de l'emprisonnement en France ? Est-ce que, en un mot, quelqu'un qui est sur le territoire, qui ne devait pas y être, doit être accompagné dans son pays et ne pas purger sa peine en France ?
Alors nous, c'est ce que nous préconisons à Reconquête, et ce qui est très décrié et qui fait polémique et qui n'est pas partagé par le Rassemblement national, encore une fois, c'est la remigration. Et quand nous disons remigration, c'est l'expulsion en fait des clandestins, des délinquants et des criminels, des fichiers S pour islamisme et puis des chômeurs de longue durée. Donc en fait, c'est l'expulsion de tous les immigrés indésirables. On ferait déjà beaucoup de place dans nos prisons. Mais pour revenir sur la pénitentiaire, il y a aussi une autre approche qu'il faudrait avoir pour justement les forces de l'ordre et ceux qui nous protègent, c'est de les protéger également eux aussi, de leur donner les moyens de se protéger. Ces deux agents-là n'avaient pas les moyens de se protéger. Et on leur, si vous voulez, passez-moi l'expression, on leur bourre le mou sur le fait qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs armes. Donc on les désarme. Et il y a très peu de policiers, de forces de l'ordre aujourd'hui qui ont le réflexe de se servir de leur arme. Au contraire, dans leur tête, c'est tout de suite, je ne tire pas, sinon j'aurai l'IGPN ou j'aurai des problèmes. Et ça, c'est un vrai souci parce qu'il y a 20-25 ans, les policiers n'avaient pas cet état d'esprit. Et il y avait quand même un respect de cette autorité. Et puis surtout, il y avait moins de blessés et plus d'action, en fait, parce que les policiers, là, sont primés vraiment dans leur métier.
La violence est plus importante dans la société aujourd'hui. En tout cas, c'est le constat que font beaucoup de nos concitoyens quand on discute. Là aussi, il faut changer les mentalités vis-à-vis de cette montée de la violence dans la société. Violence qui touche d'ailleurs de plus en plus les jeunes.
Oui, absolument. On l'a vu d'ailleurs dans les émeutes du mois de juillet, suite à la mort de Naël, qui a enflammé les banlieues. Et nous voyons cet ensauvagement dans toutes les communes françaises, cette violence des quartiers. Alors il y a, oui, certes, ce problème de violence, qui n'est justement... Parce que tant qu'on n'imposera pas l'ordre et l'autorité, forcément, il y en a qui prendront plus de place. Mais il y a aussi cette haine de la France qui s'est accumulée à travers des années d'immigration. Et aujourd'hui, on a des Français issus de l'immigration qui n'aiment pas leur pays, qui n'aiment pas leurs compatriotes et qui, en effet, n'ont aucune limite dans la violence. Et on le voit par les exemples terribles de tabassage. Récemment encore, il y a eu ce jeune au bal des agriculteurs en Isère qui s'est fait tabasser par des groupes venus de banlieue et qui ont dit clairement qu'ils voulaient casser du blanc. Là encore, Reconquête est le seul parti à parler de ce phénomène de racisme anti-blanc qui est vraiment très présent et qui fait, en effet, ce choc des civilisations que nous connaissons sur notre sol.
Est-ce qu'on ne paie pas quelque part un peu la colonisation, la France d'avant, celle qui avait colonisé l'Algérie, l'Afrique, etc.?
Bah alors on le paye, pourquoi est-ce qu'on le paierait ? Parce que finalement on leur a laissé beaucoup, beaucoup de choses et on a été virés comme des malpropres de l'Afrique. On a dû partir de l'Algérie, mais au final, qu'est-ce qu'ils nous reprochent finalement ?
Alors on a été viré de l'Afrique, comme vous dites, on y voit aussi un peu la main de la Chine quelque part, et de la Russie.
Et de la Russie, mais je pense qu'ils voient la différence.
Alors, on a aussi dans la société française une grande préoccupation, c'est la montée de l'islamisme. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Il y a toujours cette menace. Hein, on est toujours en plan vigipirate renforcé, et plus que renforcé du reste, encore en plus avec les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris et un peu partout en France. Est-ce que c'est l'autre source d'inquiétude aujourd'hui, cette montée de l'islamisme, cette montée des frères musulmans, hein, n'ayons pas peur de les citer, dans notre société?
Oui, absolument. C'est une grande menace qu'encourt le continent européen et français. Donc c'est aussi un des combats que nous menons à Reconquête et que nous mènerons au Parlement européen, parce que nous considérons que nous devons interdire les frères musulmans sur tout le territoire. Les frères musulmans, c'est beaucoup c'est des pans entiers aussi d'associations islamistes auxquelles l'Europe d'ailleurs donne des subventions. Je pense à FEMISO, qui est justement indépendant de toutes ces organisations islamistes, des revendications islamistes qui sont présentes dans tous les domaines, que ce soit à l'école, moi je le vois dans le collège de mes enfants, des revendications qui se font parmi les élèves, même dès le plus jeune âge. C'est assez incroyable cette entrée islamique qui existe et qui finalement, il ne faut surtout pas le relever parce que sinon... Vous vous attirez forcément les foudres de la gauche qui vous traitent d'islamophobe, mais c'est un réel danger qui existe actuellement. Et en effet, Reconquête est le seul à en parler parce que nous considérons que l'islam est incompatible avec nos valeurs occidentales et avec le pays. Donc en effet, nous considérons que c'est une religion qui se vit dans l'intimité et nous sommes contre le voile. Nous ne soumettons pas aux revendications. Nous n'allons pas inaugurer des mosquées comme beaucoup de gens, même de droite, le font. Et nous considérons comme un grand danger cet entrisme islamique qui prend de plus en plus de place.
Il y a un conflit de civilisation aujourd'hui, on peut dire ça, on a entendu Éric Zemmour s'exprimer là-dessus, nous parler de grand remplacement d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ou est-ce que c'est une posture politique, hein, je suis un peu direct?
Non, cette islamisation, c'est ça finalement, c'est la conquête islamique de notre sol. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui se passe entre Israël et le Hamas...
Voilà, on allait y venir, mais la transition est toute trouvée.
Oui, absolument. Bah, écoutez, quand moi je vois tous ces drapeaux palestiniens chez nous en France, je me dis que c'est le cheval de Troie de cette conquête islamique sur notre sol, que ce conflit a été importé chez nous à travers les idiots utiles que sont la France insoumise et qui soufflent sur les braises de justement ces fractures et ces conflits de civilisation, qui sont les vrais incendiaires dans cette histoire-là, et qui, justement, créent ce climat de tension et de haine. Et c'est vrai que nous parlons de choc de civilisation, parce qu'il y a deux civilisations qui s'affrontent, et finalement, ce qui s'est passé dans les kibbutz à Israël pourrait très bien se passer chez nous, en France.
Ce drapeau palestinien brandi à l'Assemblée nationale par un député LFI qui a été exclu pour une quinzaine de jours, et puis les manifestations qui s'en sont suivies à Paris chaque jour dans les rues de Paris, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète là aussi?
Oui,
je trouve... Ça vous choque éventuellement?
Je trouve ça choquant, inquiétant, comme je vous le dis, parce que pour moi, c'est le cheval de Troie, la conquête islamique, tous ces drapeaux palestiniens. Mais c'est aussi très choquant de la part de députés de la nation française qui brandissent ce drapeau palestinien. On ne les verra jamais brandir, par contre, le drapeau français. On les voyait le soir même danser sur une scène avec un DJ. Donc moi, je trouve ça extrêmement indécent, parce que si vraiment ils défendaient les victimes gazaouis, ils ne danseraient pas comme ça... joyeusement sur scène. Je trouve ça vraiment... pour moi, c'est l'image de la France insoumise qui sont vraiment des poisons de notre démocratie, des poisons en France, et qui font d'ailleurs toute leur campagne européenne sur Gaza, comme si Gaza était en Europe. C'est une récupération indécente de ce qui se passe là-bas.
Alors, il nous reste 5 petites minutes, ça va aller très vite, mais je voulais vous entendre aussi sur une des préoccupations, je l'ai promis tout à l'heure en commençant cette interview, des Français, c'est aussi le pouvoir d'achat. Grande inquiétude aussi dans tout le tumulte que vous avez pu développer, que vous avez pu décrire tout à l'heure, il y a ce pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les Français ont du mal à se loger, ont du mal à payer leurs factures d'électricité, toujours plus importantes. Est-ce que là aussi, Reconquête a J'allais presque dire des mesures drastiques pour peut-être essayer de faire en sorte que les Français vivent mieux.
Oui, alors si c'est au niveau européen, en tout cas ça joue évidemment au niveau national, quand nous disons que nous voulons libérer justement l'Europe d'une décroissance énergétique et agricole, enfin en tout cas nous refusons cette décroissance, c'est aussi pour le quotidien des Français. Puisque vous savez que si la multiplication de directives sur notamment les énergies renouvelables, cette obligation d'atteindre, je crois, 45% d'énergie renouvelable d'ici 2040, je crois, est irréalisable et en plus causerait évidemment beaucoup de problèmes au quotidien pour les Français. Parce que des énergies renouvelables, ça peut coûter cher. La facture d'électricité a déjà explosé. Cette obligation aussi des voitures, de la suppression des voitures thermiques d'ici 2035, c'est aussi quelque chose qui va coûter très cher pour le portefeuille des Français et qui n'est pas une solution utile. C'est plus une punition qu'une solution pour l'écologie. Et nous considérons qu'il faut arrêter de taxer, arrêter d'imposer et qu'il faut au contraire limiter les dépenses. Et revoir beaucoup de dépenses, ferait faire beaucoup d'économies aux Français avant d'imposer toujours plus et d'envoyer des chèques aussi, parce que les chèques ne sont que faits avec l'argent des Français et qui augmentent forcément les dépenses. Donc une vraie économie pour rendre un vrai pouvoir d'achat aux Français, parce que c'est une réelle souffrance pour beaucoup de ménages.
Est-ce qu'il faut taxer les grandes entreprises? Alors quand je dis taxer, peut-être plutôt les inciter à participer à l'effort national, voire européen. Alors évidemment, on pense tout de suite à Total, il y en a d'autres, mais est-ce qu'il faut les taxer? Est-ce qu'il faut discuter avec elles en disant, voilà, il y a un effort national à faire, et est-ce que vous êtes prêts à y participer?
Alors moi, je pense qu'il ne faut pas taxer justement ces grandes entreprises qui réussissent et qui produisent de l'emploi et des richesses pour le pays. C'est à nouveau une différence avec le Rassemblement national, puisque ces entreprises qui font du profit, forcément, ça retombe aussi sur notre pays. Et encore une fois, nous sommes contre les taxes. Mais il faudrait donner aussi la possibilité à ces grandes entreprises de rester localisées chez nous, en France ou en Europe. Donc pour cela, il faut leur donner des perspectives d'avenir. Mmh. Il faut leur permettre d'avoir un terrain fertile à l'innovation, l'entrepreneuriat, et permettre justement que ces entreprises ne soient pas délocalisées et concourent à la puissance de notre pays.
Alors, il y avait encore beaucoup de choses à dire. Un petit dernier mot néanmoins. On s'attend quand même à une abstention assez importante pour ces élections européennes. Elles ne font jamais florès, il faut bien le dire. Quoique la Bretagne vote quand même plutôt pour les élections européennes. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui aujourd'hui sont tentés de s'abstenir, de ne pas aller voter?
Bien, j'ai envie de leur dire que cette élection est une élection où ils peuvent voter avec leurs convictions. Parce que c'est une élection proportionnelle. Et même si l'Europe leur paraît loin, moi, je leur dis que s'ils votent Reconquête, notre action, elle peut être concrète, efficace tout de suite, parce que nous ne sommes pas seuls au Parlement européen, que même si nous sommes aux alentours de 5 ou 8 députés, nous sommes avec 17 autres alliés qui sont puissants aussi au niveau européen et nous pouvons influer sur la politique européenne et par ricochet sur la politique française. Donc il faut nous faire confiance pour ces élections. Nous pouvons participer à un grand mouvement. D'ailleurs, il y a un mouvement historique qui se fait actuellement en Europe qui pourrait pencher la balance vers la droite et redonner au Parlement européen cette force de droite. Parce que ça fait depuis, je crois, 89 que c'est à gauche. Et je pense qu'on en a soupé. Et maintenant, il est grand temps de changer cette majorité. Et avec Reconquête et des députés Reconquête, ce sera possible. Donc, c'est un vote qui peut être utile cette fois. Et j'invite tous les gens à aller voter le 9 juin pour la liste de Marion Maréchal.
Elisabeth Louvel, candidate aux européennes sur la liste Reconquête, conduite par Marion Maréchal, 21e sur la liste. Et elle fait partie des trois, vous faites partie des trois candidats bretons. Merci infiniment d'avoir été en direct en ce dernier jour du mois de mai au micro de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.